Les 20 ans du DAL. Un entretien avec Benoît, Mohamed, Assa et Fatimatou. Une émission réalisée par Alex Robin. Le DAL, vous savez bien que c'est le droit au logement. C'est une association qui a eu le temps de se faire connaître en une vingtaine d'années, qui a donc émergé dans les années 90 et qui se bat pour que les gens aient droit au logement. Les gens qui se font souvent expulser alors qu'ils ont en général les moyens de payer leur loyer. Mais c'est une sorte de loi de la jungle que le milieu de l'immobilier, bien qu'il y ait des dizaines de milliers de logements qui soient libres, par exemple dans la ville de Paris et un peu partout dans ce pays. Donc c'est à la fois une question militante et une question de droit qui est en jeu. Alors on va écouter certains des membres du droit au logement, pas forcément les plus connus comme le fameux Babar, Jean-Baptiste Hérault, qui est le leader charismatique du droit au logement. Il y a Nadja aussi qui est bien connue, qui est proche de Babar et quelques autres. Il y a une équipe qui est là depuis quasiment le début et qui est un noyau dur du droit au logement qui continue, qui a le mérite de durer. Et puis il y a des nouveaux venus et des gens qui sont arrivés en cours de route et qui se sont impliqués comme Benoît qu'on va entendre bientôt. Alors cet anniversaire des 20 ans s'est fait à la machine du Moulin Rouge, c'est-à-dire une ancienne boîte de nuit qui est devenue une salle de concert et qui est juste à côté du Moulin Rouge dans Paris. Et donc il y avait pas mal de monde ce 31 octobre, des artistes qui soutiennent habituellement le DAL et des gens qui ont des problèmes de logement et puis des sympathisants qui ont circulé comme ça au long de la journée, de la soirée et de la nuit. On écoute Benoît qui retrace à grands traits un itinéraire du droit au logement et des enjeux que ça a constitué, notamment au travers du droit.
Alors, les grandes dates du DAL, ça commence à un moment où j'étais pas là, parce que moi, ça fait 13 ans que je suis au DAL, je suis arrivé en 97. Mais la première grande date, c'est la place de la Réunion, c'est la fondation du DAL, avec des familles qui avaient mené un campement à la suite d'une expulsion. En fait, c'est un mouvement qui n'est pas de nulle part, c'est un mouvement qui fait suite à un mouvement des années 80, avec les occupants rénovateurs qui squattaient des lieux, qui installaient des familles. Puis ces immeubles ont été expulsés en 1990, et donc les familles ont décidé de camper place de la Réunion pour obtenir un relogement. Et donc de ne pas continuer à squatter. Et donc là, c'est la naissance du DAL avec des militants qu'ils avaient soutenus et les familles qui campaient. Et puis ensuite, ça a commencé avec deux modes d'action qui sont les deux modes d'action principaux, en tout cas la partie émergée de l'iceberg du DAL, qui sont le campement et la réquisition. Donc occupation d'immeubles vides et puis campement sur la place publique pour obtenir le relogement des familles. Et donc il y a eu le quai de la gare en 91 ou 92, et puis René Coty, l'occupation d'un immeuble vide juste après. Et donc là, c'est le moment où le nom droit au logement prend tout son sens, puisque c'est au moment de René Coty qu'il y a eu un arrêt très célèbre qui a reconnu que les squatteurs squattaient par nécessité. Donc ils n'étaient pas de vilains délinquants qui voulaient voler des logements, mais étaient bien des sans-logis, des mal-logés, qui n'avaient pas d'autre possibilité en France pour se loger que de squatter.
Donc ça fait jurisprudence ?
Ah oui, ça fait jurisprudence. Ouais. C'est un arrêt de la Cour d'appel qui fait jurisprudence. Et puis ensuite, en 95, il a été reconnu par la Cour de cassation que le droit au logement était un objectif à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que le pouvoir doit ensuite arbitrer entre un objectif constitutionnel qui est le droit de propriété et un objectif à valeur constitutionnelle qui est le droit au logement. Et tout le combat du DAL, c'est ça, c'est de faire reconnaître que le droit au logement prime sur le droit de propriété, puisque quand on est dans un pays dans lequel des millions de logements sont vides et dans lequel il y a des millions de mal logés, eh bien une solution quand même qui semble assez simple, ça serait de mettre les mal logés ou les sans logis dans les logements vides. Voilà. Et puis le DAL s'est développé, beaucoup de familles ont rejoint l'association, et donc il y a tout un travail qui s'est mis en place, on va dire de mobilisation des mal logés, de soutien à des squats, à des immeubles ou à des immeubles insalubres. Les gens étaient parfois locataires. Et puis, en l'hiver 95, donc 94-95, c'est la rue du Dragon qui a contribué aussi à médiatiser l'action du DAL, puisque donc, c'est l'occupation d'un très gros immeuble appartenant à la Cogedim, gros propriétaire immobilier, avec plusieurs dizaines de familles qui ont fini par être logées. Donc le but de l'association est double: obtenir le relogement des familles en lutte, des familles mobilisées, et puis ensuite essayer d'obtenir des avancées en général, pour tous les mal logés, soit par des jurisprudences, soit par des améliorations législatives, soit même par une amélioration des pratiques, puisque les luttes du DAL ont quand même amené des gros changements dans les pratiques des mairies ou de l'État, beaucoup, et évidemment des bailleurs. Donc l'association a continué à mener des actions, il y a eu des réquisitions, en 1997 il y a eu Avron et Falguière, enfin il y en a eu d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a eu tout un tas de réquisitions, et puis il y a eu des campements aussi, comme tout dernièrement le campement de la rue de la Banque, les deux campements de la rue de la Banque en 2007 et 2008-2009, qui ont aussi permis d'obtenir le relogement d'un certain nombre de familles. Donc si on fait un peu le bilan, aujourd'hui, en 20 ans d'existence, la première victoire, évidemment, pour les militants du DAL, je pense, c'est le relogement de 20 000 familles en 20 ans, ce qui fait à peu près 80 000 personnes. Et évidemment, c'est le moteur de l'action, c'est le moteur de l'engagement des familles, c'est le moteur de l'engagement des militants autour de ces familles mal logées. Mais il y a eu aussi d'autres avancées plus générales. Il y a eu une évolution importante des pratiques d'attribution, plus de transparence et de justice dans les attributions HLM, et puis aussi probablement une évolution, alors qui est plus difficile peut-être à estimer, mais quand même, quand le DAL a commencé son activité, donc en 90, il y avait très 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 peu de familles immigrées qui étaient logées dans les HLM, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une évolution qui est due à ces luttes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que c'est dans la perception des mal logés, des sans logis. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du droit au logement comme objectif à la valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que le DAL probablement a fait évoluer la perception que les gens avaient des sans logis et des mal logés, et a contribué aussi à la prise de conscience de l'existence de la crise du logement. Et que dans une société riche comme est la nôtre aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, et si elles ne sont pas appliquées, c'est par un défaut de la volonté politique. Le meilleur exemple en étant la loi de réquisition, puisque le DAL a réussi à faire appliquer de temps en temps la loi de réquisition, qui est une loi qui existe et qui apporte des solutions concrètes aux gens, et qui pour autant était tombée quasiment en désuétude et reste.
C'est une loi de la libération, quoi.
Ouais, 45. Alors il y a deux procédures, parce qu'il y a une autre procédure, il y a trois procédures en fait de réquisition. Il y a l'ordonnance de 45, il y a la loi de 98 contre les exclusions qui a créé une nouvelle procédure, et puis il y a les réquisitions d'urgence par les maires en fait. Donc le DAL a réussi à faire appliquer la loi de réquisition de 45, et puis des réquisitions au niveau local par les maires. Et ça, évidemment, aussi, je pense que ça contribue à montrer que la solution, elle est là, elle est à portée de main, et que pourtant, elle est aujourd'hui, cette loi, elle est plus appliquée aujourd'hui, très peu. Quand on arrive à la faire appliquer, par exemple, c'était le cas à Saint-Denis, il y a très peu de temps, il y a un an, le maire a réquisitionné un immeuble vide pour y loger des familles, et bien l'État a attaqué ce maire et a obtenu que son arrêté de réquisition soit cassé. Donc aujourd'hui, on est face à une régression très forte, parce que si je résume, on peut dire que pendant 10 ou un peu plus de 10 ans, il y a eu des avancées pour les mal logés. Et puis, à l'exception de la loi Dalo, aujourd'hui, on est plutôt dans une période de régression, c'est-à-dire de régression générale, c'est-à-dire de marchandisation du logement social. On vend le logement social, on le fait rentrer dans le secteur marchand. Et puis, il y a une répression très forte quand même qui s'abat sur les mouvements de mal logés et puis de sang en général, et le mouvement social en général, pour faire passer ces régressions.
Donc le seul... ce qui reste un peu l'acquis actuel qui est encore là, c'est la loi Dalo, quoi.
Voilà, ce qui reste, l'acquis principal et le plus récent, c'est la loi Dalo. Donc le combat aujourd'hui, c'est de faire appliquer cette loi. Parce que la loi est là, elle a été votée en 2007, elle a été votée à la suite de mouvements de lutte qui datent d'une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, cette loi n'est pas appliquée. Donc c'est un socle qui crée un droit, et maintenant il faut obtenir que ce droit devienne réel. C'est-à-dire que si je prends un chiffre vraiment très, très concret, à Paris, parmi tous les gens qui ont déposé des demandes d'allo, il y en a à peu près 8% qui ont été logés. C'est à rien. Il y a plus de 100 000 familles qui ont eu un avis favorable et qui sont jugées prioritaires au titre du droit au logement imposable, qui donc doivent être relogés en urgence par l'État. Et aujourd'hui, ces familles ne sont pas logées. Donc le combat pour nous maintenant, c'est d'obtenir que ce droit devienne effectif et que l'ensemble des prioritaires jugés tels par la loi soient effectivement relogés. Que ça soit directement dans le logement HLM, que ça soit dans des réquisitions, en tout cas qu'elles soient logées dans des vrais logements dignes et décents où les gens pourront vivre hein, tranquillement avec leur famille ou sans leur famille s'ils n'ont pas de famille, bien sûr. Voilà.
Une lutte qui reste assez pragmatique, quoi, hein, qui se garde d'avancer des positions idéologiques, même s'il y a des logiques qui sont plus globales que celles du logement propre à partir du moment où on commence à s'occuper des problèmes de logement.
Alors le DALT, c'est deux choses à la fois. C'est un mouvement de lutte de base, avec des mal logés qui se mobilisent, et le but, c'est un but très concret, obtenir des logements. Après, forcément, on est obligé de réfléchir sur les logiques générales, et on constate quand même, par exemple, le processus de marchandisation du logement social dont je parlais tout à l'heure, on le voit à l'œuvre. Donc c'est aussi un processus qu'on dénonce, et puis on essaye de lutter pour qu'il s'inverse, donc de faire des propositions d'amélioration des lois, voilà. Mais effectivement, c'est pas du tout un mouvement idéologique. On peut pas dire que ça soit un mouvement idéologique. Et surtout, c'est évidemment un mouvement apolitique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appartenance politique du DAL ou de ses militants à des partis politiques. On a des liens, c'est-à-dire qu'il y a des militants politiques qui viennent soutenir des luttes, qui participent à des luttes, mais le DAL en tant que tel n'est pas un mouvement politique.
Et alors l'évolution dont tu as parlé est surtout marquée sur Paris, mais il y a aussi un essaimage des gens qui sont du DAL ailleurs, hein, à travers le pays, et aussi un réseau international auquel le DAL participe.
Alors il y a... Donc le DAL au départ est né à Paris, mais il y a aujourd'hui une trentaine de comités qui existent en France, c'est une fédération, depuis la fin des années 90, et les premiers comités ont commencé à exister au milieu des années 90, et mènent des luttes, hein, les mêmes qu'à Paris, puisque le processus est général, hein, donc mènent les mêmes luttes qu'à Paris, et ces comités obtiennent des relogements hein, tous les ans, et quand je parlais tout à l'heure de 20 000 relogements en 20 ans, c'est... les relogements obtenus par l'ensemble des comités, qu'il s'agisse de Paris ou des comités de province. Donc effectivement, le DAL a essaimé, puisque le mal logement est présent partout en France. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a l'inscription dans un mouvement plus international qui s'appelle Novox, et qui regroupe des associations de base un peu partout dans le monde, des associations de lutte de base, c'est-à-dire de mobilisation des mal logés, des sans logis, des sans emploi, de certains bidonvilles dans certains pays. Voilà, le but, c'est de travailler en réseau avec ces associations et de faire en sorte que cette question des sans, qui est aussi émerge, que les mouvements se renforcent les uns des autres aussi par des liens de solidarité.
Je te remercie, Benoît, pour ce survol. Après Benoît, on va retrouver Mohamed qui était à cet anniversaire du droit au logement à la machine du Moulin Rouge le 31 octobre et qui s'occupait des entrées. Donc il nous explique lui comment ça s'est passé en quelques mots. Il a réussi à trouver un logement alors qu'il était en difficulté.
En 2001, je me suis divorcé avec mon ex. Donc les enfants, ils sont restés avec elle à la maison, bien sûr, parce que moi j'ai quitté la maison. Et donc elle a été expulsée avec les enfants. Donc j'ai récupéré en 2001 les enfants dans un studio de 7 mètres carrés. Et depuis 2000, j'avais un demande de logement social.
Et tu faisais quoi comme boulot ?
J'étais un pompier. J'ai touché à peu près 1900 euros par mois. Donc j'ai fait des demandes, donc c'est pas la peine. Il faut aller voir chez le privé. Donc j'ai travaillé à mi-temps pour avoir un logement social. Donc vous gagnez pas assez. Et en 2005, j'ai entendu parler de dette du DAL, par le biais des gens qui habitaient avec moi. Donc je me suis approché au DAL. Et malheureusement, j'ai milité l'arrêt de la banque, mais il y avait un accident. Mon père, il était mort. Donc j'étais obligé de partir en Algérie. Donc je suis resté une année. Et je suis revenu en 2007. Donc en 2007, ils m'ont dit qu'il y a une loi qui a été sortie, la loi d'Allo. Donc j'étais très content. Donc je mets un dossier comme tout le monde. Début janvier 2008, j'étais favori. J'étais favorable, donc le préfet il doit me reloger en priorité. En fin de compte, c'est que des poudres aux yeux, donc il n'y avait rien du tout, donc j'ai attendu à peu près. Donc depuis 2008 jusqu'à 2010, Donc c'est pas le préfet. Donc on a fait une action au niveau de CNI. Donc c'est là qu'ils nous ont proposé 20 logements. Donc j'étais dans le lot de 20 logements. Sinon, c'est toujours la galère, quoi. Toujours la galère.
Mais là maintenant, t'as un logement alors ?
J'ai un logement maintenant, ouais. J'ai un logement F2. Malgré qu'on est trois personnes, hein, une fille, un garçon et moi. Donc j'ai accepté parce que je ne devrais pas accepter parce qu'il n'y a qu'une chambre. Mais j'ai accepté tellement que j'étais dans 7 mètres carrés. Donc pour moi, 50 mètres carrés, c'est un château. Donc j'ai accepté, yeux fermés. J'ai cherché même pas à comprendre s'il y a deux chambres, trois chambres, une chambre. Donc voilà, ils m'ont dit, voilà, tu seras relogé. J'ai accepté tout de suite, sans visiter. Donc sans visiter, j'ai accepté tout de suite parce que tellement c'est la misère pour le logement. Donc j'ai accepté directement. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu le DAL, grâce au DAL que je suis maintenant dans mon logement. Donc voilà, donc j'ai trouvé des gens sympas, des gens qui comprennent bien les gens. Donc on pouvait parler avant, c'est ce que je ne fais pas, je ne parlais pas. Parce que c'est la honte, c'est ceci, c'est cela. Donc quand je suis rentré au DAL, donc j'ai trouvé des gens qui m'écoutent, qui me donnent des conseils. En même temps, j'ai continué à lutter et je continue jusqu'à la fin. Donc je ne vais jamais quitter le DAL parce que j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Donc il faut qu'on leur donne un coup de main, qu'il faut qu'ils profitent de notre expérience de lutte. Donc on est là pour les apprendre à lutter, donc on lutte avec eux jusqu'à la fin.
Et tu as toujours le boulot de pompier ou tu fais autre chose maintenant ?
J'étais obligé d'arrêter mon travail parce que mes enfants ils étaient petits et dans un 7 mètres carrés, c'est pas possible. Maintenant j'ai repris mon métier, donc ça va, tranquille. Pompier dans les entreprises privées, donc il n'y a pas de problème.
Et sinon tu es originaire d'Algérie ou ?
Je suis français. Ouais. Je suis français. Ma mère elle est française, mon père il est français, mes sœurs elles sont françaises, mes frères ils sont français, donc on est tous français.
Mais d'origine, tu te...
Mes parents, ouais. Ils sont français parce qu'on était colonisés par la France. Donc moi, j'estime que ouais. Mes parents, ils sont nés avant l'indépendance. Donc on est français.
Mais de quel pays, je veux dire ?
D'Algérie. Mes parents, ils sont d'Algérie. L'Algérie, c'est la France. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. C'est voilà, ils sont français. Donc ils ont des papiers français depuis les années 40-45. Donc on est tous français. Toute la famille est française. Donc il n'y a pas de souci.
Après Mohamed, on va écouter Assa et Fatimatou, qui, elles, sont toujours en difficulté, qui n'ont toujours pas de logement après 4 ans de bagarre. Elles font partie aussi des gens que le DAL, le droit au logement, défend. Mais la solution n'est pas encore trouvée.
Moi, ce qui m'a rapproché du DAL, déjà, c'est le fait qu'on était plus ou moins dans la galère. On s'est fait expulser à tort. Et malheureusement, que ce soit à tort ou à raison, dans des moments comme ça, on n'a pas trop le choix que de trouver une solution. Donc on s'est rapproché du DAL parce qu'on a vu que tout seul, on n'avance pas. Et il n'y a pas de solution. Donc on s'est rapproché afin de... Grâce à cette association, c'est un mouvement, on est beaucoup, on peut avancer. Et voilà, donc ça fait 4 ans qu'on vit à l'hôtel, on se bat quand même. Et,
comment ça s'est passé alors, toute cette histoire vous logiez où et vous avez été expulsé quand et tout ça ?
Alors depuis 2000, on a été dans un logement privé particulier, dans un 2 pièces, on est 4, moi, ma mère et mes 2 petits frères. Et on s'est fait expulser en septembre 2006. On est arrivé de vacances, ils ont changé les serrures. Et on s'est retrouvés dans la rue. Et,
du jour au lendemain, quoi.
Ouais, du jour au lendemain.
Et en fait, vous payez vos loyers et tout
payé.
Ça.
On a toujours payé nos loyers. Quand on est parti chez le juge, à la fin, il a dit oui, ça a été à tort, mais c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Donc, on a toujours payé. C'est ça qui nous a choqués d'ailleurs beaucoup. Parce que soi-disant, ils nous ont envoyé des courriers qu'on n'a jamais reçus. Et c'était surtout au moment du boom de l'immobilier. Et le propriétaire voulait à tout prix vendre. Donc il était prêt à tout pour vendre l'appartement. Et pour faire une plus-value, il s'avère qu'on était mal tombé. Et dans des moments comme ça, on est obligé de trouver des solutions. Et on s'est retrouvé d'hôtel en hôtel depuis 2006, ça fait 4 ans.
Pas moyen de trouver un nouveau logement depuis,
non.
Quoi.
Non. Non, 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 non. On a eu... on travaille. Moi, je suis étudiante. Ma mère travaille. Et mes 2 petits frères sont étudiants aussi.
Vous faites quoi comme travail, madame ?
Je garde les enfants à domicile. Assistante.
Ouais. Et vous faites quoi comme études ?
Moi, j'ai eu ma licence en management des organisations et je suis en master management des affaires internationales.
D'accord. Et comment... vous êtes arrivé en France quand ? Vous étiez où avant ?
Depuis que j'ai 2 ans, 2-3 ans. On vivait en Normandie avant de se retrouver sur Paris et dans la galère.
Et vous?
Qui est né ici. Il y a le petit frère qui est né à Alençon, déjà, bon, à l'hôpital d'Alençon. On est là, on n'est pas... Depuis qu'on est venu, on travaille. Depuis que je suis là, je travaille.
Vous êtes de quel pays au départ?
De la Mauritanie. On est de la Mauritanie. Bon, depuis que je suis venu, déjà, on a été colonisé par les Français. On est parti à l'école. On a fait des études plus qui sont grandes, au moins ce qui nous permet de parler français. On n'est pas comme des autres qui viennent, qui ne savent pas parler. Mais avec tout ça, j'ai fait mon insertion. J'ai fait l'AFPA, j'ai fait la petite enfance, j'ai travaillé à la mairie uniquement pour...
La mairie de Paris?
À la mairie d'Alençon. À la mairie d'Alençon, pour au moins mon intégration. Mais avec tout ça, comme là-bas, avec tout ce qui a été privatisé, il n'y avait plus rien. Il y avait Moulinex qui a été fermé. Depuis que Moulinex est fermé, il n'y a plus de vie à Alençon. Donc on ne pouvait pas vivre d'Érémy, de ceci, cela. Je ne voulais pas. Donc je me suis retrouvée. Ça trouve que j'avais fait l'AFPA. J'ai fait la petite enfance. Donc avec mes diplômes, j'ai fait l'AFM. Je me suis dit, bon, je suis venue sur Paris depuis 1999.
C'était les 20 ans du DAL, première partie, un entretien avec Benoît, Mohamed, Assa et Fatimatou. Une émission réalisée par Alex Robin.